BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Bienvenue à tous, nos talents cette semaine, ils sont là. Charles Aubert-Couturier, expert digital, l'asset pour KCIS. Bonjour Charles, bienvenue.
Bonjour
Guillaume. Thibaut Boutrou aussi nous accompagne, directeur général de Meria. Bonjour Thibaut, ravi de vous retrouver. Dans un instant, on parcourra l'ensemble des grandes actus de cette nouvelle semaine crypto. Le Bitcoin qui a passé sous les 60 000 à 58 000. Tiens, Gilles Santacreux aussi est avec nous pour en parler de ce Bitcoin. Ensuite, Gilles, je vous demanderai quel potentiel sur l'Ether. D'abord, Bitcoin, trader algorithmique. Hein. Vous êtes administrateur du site boursicoté.com. Comment vous voyez les choses? On est passé sous les 60 000 cette semaine. Est-ce que c'est un, on va dire, une nouvelle impulsion baissière qui s'ouvre là?
Oui, la zone à surveiller, c'était 61 000 dollars pour un Bitcoin. En cassant cette zone, eh bien, on confirme le fait que l'on a divisé par deux donc la valeur du Bitcoin depuis son plus haut, et on confirme une poursuite d'un mouvement baissier. Alors le problème, c'est que sous cette zone des 61 000 dollars, on n'a pas grand-chose. La prochaine zone de support, c'est 52 500. On a beaucoup de signaux hein, qui sont assez négatifs sur le Bitcoin. On continue à avoir des sorties massives sur les placements Bitcoin. On a des chiffres hein, qui commencent à sortir, qui sont assez inquiétants, notamment sur les positions en cours, où il y aurait plus de la moitié des positions en cours qui seraient désormais perdantes sur le Bitcoin. Et tout cela pourrait être, confirmé par justement cette cassure pérenne de cette zone des 61 000. Donc pour sortir, je dirais, de cette configuration, il faudrait au minimum revenir au-delà des 67 500 dollars pour un Bitcoin. Mais là, pour l'instant, et on l'a vu hier notamment, hein, on a eu un début d'accélération, eh bien, on continue à s'inscrire dans un mouvement baissier.
Et sur l'Ether, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que l'Ether face au Bitcoin s'en sort mieux et doit s'en sortir mieux ou toujours pas?
Non, toujours pas. Le point de repère, c'est le point bas que l'on avait eu le 6 février. Lorsque nous étions sur la précédente phase d'accélération, donc c'était au début du mois de juin, on a cassé cette zone de support des 1 740 $ pour un Ether, et on a marqué un contact sur une autre zone de support qui était identifiée à 1 535 $. Et là, on est en train de retester cette zone des 1 535. Donc, le fait de casser comme ça des supports simultanément, eh bien... maintient, je dirais, l'Ethereum dans une dynamique baissière là aussi. Et en cas de cassure justement de cette zone de support, eh bien le prochain objectif se situe à 1 375 $ pour un Ethereum. Donc ça reste baissier là aussi, comme quasiment sur l'ensemble des cryptos.
Gilles Santacreux, boursicoté.com. De quoi parle-t-on cette semaine? De quoi va-t-on parler avec nos pros des cryptos? D'abord Binance qui, pour ses utilisateurs français, quitte le pays. Et pour ceux qui obtiennent l'agrément, Meria d'ailleurs en fait aussi partie. Comment rester conforme et compétitif? Ces enjeux, on va bien sûr en parler. On évoquera l'euro numérique, la confidentialité. Ah, finalement, avec l'euro numérique, la confidentialité sera-t-elle quand même préservée? Les députés européens ont voté en faveur de l'euro numérique cette semaine, mais ils ont mis l'accent sur le fait de la confidentialité. Nos pros nous diront de quoi il s'agit. Comment l'euro numérique pourrait-il vraiment respecter votre confidentialité? Est-ce qu'on doit y croire? Ça lèverait un lièvre important, on en parlera. Et on parlera aussi de Facebook. Est-ce que le Libra, vous savez, la monnaie que voulait mettre en place Facebook il y a quelques années, sera de retour sous une autre forme? Son fameux projet de monnaie pourrait revenir à travers les stablecoins. Explication à suivre. C'est votre épisode hebdomadaire des pros des cryptos, à retrouver tout au long du week-end. En podcast, en replay sur notre chaîne YouTube BFM Business. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Charles Aubert-Couturier, bienvenue Charles, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et Thibaut Boutrou, bonjour Thibaut, ravi également de vous retrouver. Le dollar remonte très fort, hein. L'euro est passé cette semaine sous le dollar 14, quand même assez majeur, quoi. On était à 1,19 il y a quelques semaines à peine. Donc le dollar qui remonte, quel est le lien là entre l'évolution du dollar et une stratégie monétaire donc et le potentiel du Bitcoin? Parce que c'est vrai qu'on a vu le Bitcoin cette semaine passer sous les 60 000 à 58 000. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec cette remontée spectaculaire du dollar?
Alors une corrélation directe, je sais pas, mais en tout cas on est au cœur d'une des propositions de valeur de Bitcoin en réalité, quand on parle de la politique monétaire et du dollar d'une part et de Bitcoin d'autre part. À court terme, en effet, on se rend compte que les taux d'intérêt augmentent et notamment les taux de la Fed restent au-dessus des taux de la BCE, ce qui crée un attrait pour le dollar, d'où cette compétitivité accrue du dollar face à d'autres devises. Et donc c'est finalement, ça draine une partie des liquidités vers le dollar assez naturellement, qui investit y compris sur de la dette court terme qui est rémunérée assez bien du côté des US, et donc ce qui pèse sur des actifs plus risqués qui ne portent pas de rendement comme le Bitcoin. Après, à plus long terme, en réalité, ce sur quoi on investit quand on investit dans le Bitcoin en partie, un des rationnels d'investissement, c'est justement de se dire que il n'y a pas de soutenabilité pour avoir un dollar qui soit aussi fort. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le taux d'endettement aux US, il est très important. Le déficit, il est de près de 6%. Et donc, en réalité, on mise sur le fait que va y avoir de l'inflation et va y avoir la nécessité de réimprimer du dollar. Et donc, derrière, de rendre plus attractifs des actifs comme Bitcoin qui sont limités à 21 millions d'unités.
Oui, donc dollar en hausse en ce moment, figurez-vous. Stratégie est aussi impactée parce que la chute du Bitcoin, c'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour Stratégie. Le titre est passé sous les $100 d'ailleurs pour la première fois en 2 ans et demi. Et Stratégie, Thibault, a pour la première fois acheté plus de dollars que de Bitcoin.
Ouais, effectivement, c'est un petit peu un nouveau indicateur qu'on observe depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, même côté Stratégie, avec une conviction qui reste inchangée, c'est-à-dire que on les a pas vus changer leur thèse. L'objectif, c'est toujours d'accumuler un maximum de Bitcoin. Par contre, avant, c'était peut-être accumuler à tout prix, presque tête baissée sans réfléchir. Et là, on entre dans une nouvelle phase où l'idée est toujours d'accumuler, mais peut-être de manière un peu pragmatique. On bascule vers une institution financière qui est totalement adossée à Bitcoin. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, le coût pour lever de l'argent est de plus en plus tendu pour eux. Ils ont remarqué aussi ce fameux test où ils ont vendu un petit peu de Bitcoin en début de mois. On a vu un peu l'effet que ça pouvait avoir sur le marché, notamment l'effet médiatique sur Stratégie et l'impact sur leur cours. Et donc, je pense qu'il y a aussi une volonté de dire il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où on est contraint de vendre dans des mauvaises conditions. Donc, l'idée d'avoir un matelas finalement en dollars, c'est peut-être pas inintéressant. Ça nous donne peut-être un petit peu plus de marge d'erreur. Et en plus de ça, ça nous permet demain, si on a des opportunités d'achat plus basses, de pouvoir racheter avec ce matelas plutôt que de lever de l'argent. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère dans laquelle on entre pour Stratégie, beaucoup plus pragmatique, et c'est aussi une manière finalement de rassurer les investisseurs en disant nous effectivement on a cette conviction sur Bitcoin, on veut continuer d'en accumuler, mais on veut pas le faire n'importe comment, on veut le faire intelligemment pour assurer aussi la pérennité de l'entreprise.
Et à partir de quel cours du Bitcoin le groupe Stratégie donc serait-il obligé d'en revendre des Bitcoins à nouveau pour honorer ses engagements en matière de dette notamment, Charles?
Ouais, c'est pas tant un seuil ou un niveau de Bitcoin aujourd'hui. Clairement, ils sont en perte, en moins-value latente. Ils sont à peu près à 10 milliards, autour de 10 milliards de moins-value latente, entre le prix moyen d'acquisition qui est autour de $75,000 et le cours actuel qui est à $60,000. Ça fait à peu près 10 milliards de moins-value latente. C'est plutôt un enjeu de financement. Est-ce qu'ils sont en capacité d'avoir du cash pour, comme le disait Thibault, rencontrer les échéances qui arrivent, des paiements de dividendes, des paiements d'intérêts, etc., etc. Et là, il y a une forme d'effet ciseau. Si on regarde un petit peu les chiffres quand même, on avait près de 7 ans de couverture il y a quelques mois. Là, on est descendu à près de un peu plus d'un an de couverture. Donc, on voit qu'il y a moins de cash, plus de besoins de financement, plus de besoins de remboursement. Et donc, c'est ce que disait Thibault. Il y a la volonté de créer une trésorerie aussi en dollars pour pouvoir faire face à ces échéances-là sans avoir à vendre du Bitcoin.
Alors que le dollar monte, on parlera de Binance dans un instant, ouais, qui va quitter la France, bien sûr, ça intéresse plein de gens. Mais alors que le dollar monte, la dédollarisation, elle se confirme. Ça peut paraître paradoxal, mais on peut avoir une valeur du dollar en hausse pour plein de raisons, spéculatives, etc., un contexte géopolitique. Et puis, parallèlement, quand même, des banques centrales qui veulent moins dépendre de ce dollar. Et ça se confirme, Thibault. Les banques centrales continuent de vouloir acheter de plus en plus d'or plutôt que du dollar.
Ouais, c'est deux indicateurs qui sont différents. On peut avoir une dédollarisation et donc effectivement le poids du dollar qui a tendance à baisser dans les réserves des banques centrales, et pour autant à court terme le dollar qui s'apprécie pour différents facteurs. Et d'ailleurs cette dédollarisation, elle à moyen long terme, peut-être qu'elle servira aussi Bitcoin, puisque ce qu'on regarde, c'est que les banques centrales ont cette vocation à être de plus en plus souveraines, et elles sont en recherche de diversification. Et donc aujourd'hui, effectivement, la prime est à l'or pour tout son historique. Mais ça ramène un peu quelques discussions autour de Bitcoin. Est-ce qu'il a cette capacité à devenir un actif souverain totalement indépendant? Donc intéressant pour les banques centrales dans le cadre de ces diversifications. Donc on a ce phénomène qui continue, qui ouvre la porte à Bitcoin. On continue un petit peu toute cette narrative autour des réserves en Bitcoin sur les trésoreries. On va voir ce que ça donne sur le long terme.
Et donc Binance qui va quitter la France, ça c'est quand même la grosse actu de la semaine. Et on parlera de Meria qui a obtenu l'agrément comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup qui l'ont pas. Et donc Binance, c'est désormais confirmé et officiel. Dans un email adressé à ses utilisateurs, Binance confirme que ni Binance France ni aucune autre entité du groupe ne tiendront l'agrément MiCA d'ici au 30 juin pour les utilisateurs. ça va changer quoi, Charles ?
Alors, pour les utilisateurs, déjà, il n'y a pas d'urgence particulière, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la fin des services pour Binance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité à compter du 1er juillet. Et ça a été annoncé par Binance, qui a envoyé un mail à l'ensemble de ses utilisateurs, qu'il n'y aura plus la possibilité de faire des trades, d'acheter, etc., etc. En revanche, les fonds ne sont pas à risque. Et conformément au règlement MiCA, d'ailleurs, Binance laisse la possibilité de retirer ses fonds et d'aller les transférer vers des plateformes tierces ou vers des portefeuilles qu'on peut gérer soi-même, donc vers des portefeuilles dits auto-hébergés. Donc les fonds, eux, ne sont pas à risque. Et après, il y a peut-être une deuxième lame, c'est plutôt les positions à effet de levier qui, elles, doivent être clôturées avant, je crois, octobre prochain. Donc ça, il y a peut-être un peu plus de gestion à faire de la part de l'utilisateur. Mais sinon, les fonds ne sont pas à risque à court terme. En tout cas, il n'y a pas de gel du compte ou autre. Il y a la possibilité, tout simplement, pour les utilisateurs eux-mêmes de retirer leur crypto.
Oui, et on pourra le faire aussi après le 1er juillet.
Tout à fait, exactement. Oui, j'ai peut-être pas été assez précis, mais en effet, ça pourra être fait après le 1er juillet pour tous les utilisateurs. Et justement, on voit tout un tas de plateformes qui commencent à se positionner pour essayer de récupérer une partie du gâteau.
C'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de promos du côté des acteurs qui ont obtenu l'agrément pour les attirer, des bonus. Voilà, il faut se laisser tenter, Thibaut.
On vit quelque chose d'assez inédit. En 10 ans, j'ai jamais vu un phénomène comme celui-ci. Je pense que beaucoup ne représentent pas le poids de Binance aujourd'hui. Binance, c'est quand même la plateforme qui avait le plus d'utilisateurs, notamment en France, et des volumes qui sont colossaux. Et donc là, on a une fenêtre de 10 jours pendant laquelle ces capitaux, ils doivent se repositionner. Et donc, dans un contexte marché comme celui où on est actuellement avec Bitcoin et Ether qui continuent de plonger, un intérêt pour le grand public qui est pas forcément au rendez-vous depuis maintenant quelques mois, c'est une occasion d'aller faire de l'acquisition qui est presque inespérée. Donc nous, on l'a constaté globalement sur les 48 dernières heures, je fais l'équivalent de 2 mois de dépôt et de flux entrant. C'est en 10 ans, j'ai vu ça peut-être une ou deux fois dans des contextes de marché très haussiers, mais dans ce contexte de marché, c'est assez inédit. Donc naturellement, toutes les plateformes essayent d'en jouer pour récupérer un maximum de trafic et de flux, surtout qu'on sait qu'une fois que le flux il vient, il va mettre plus de temps à ressortir. Donc forcément, c'est assez important pour les plateformes dans ce contexte marché. Après, là où je veux effectivement mettre quand même un petit hola et temporiser, et c'est ce que Charles a dit. On a vu aussi beaucoup de plateformes communiquer avec des manières un petit peu agressives et un petit peu parfois détournées, en mettant presque la pression et en créant une espèce d'urgence chez les utilisateurs. Il faut rappeler vraiment que les services de Binance ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Oui. Les fonds ne sont pas en danger. Et ça, c'est important parce qu'on voit parfois des gens qui ne sont pas préparés et qui ont tendance à vouloir prendre des décisions un petit peu dans la précipitation et qui vont avoir tendance parfois à faire des bêtises. Donc, il faut rappeler ça. Il faut être hyper vigilant du coup sur toutes les promotions. Hyper vigilant aussi sur les bonus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plateformes qui mettent en place des choses très attractives, mais il faut bien regarder les conditions et comment on peut être éligible, parce que parfois, on peut avoir tendance à se précipiter et on se rend compte que dans les petites lignes, finalement, c'est attractif, mais sous certaines conditions. Donc, attention à tout ça. Mais effectivement, pour les plateformes, opportunité inédite. Et encore une fois, moi, j'ai rarement vu une traction. Nous, jour et nuit, notre support est assez débordé depuis que Binance a fait son annonce. Donc, il faut évidemment, pour les plateformes, profiter de cette opportunité.
Exactement. Et pour les utilisateurs, donc, bien sûr, bouger leurs fonds. Mais encore une fois, un, sans urgence, et deux, sans se faire avoir par les arnaques. Il y en a des arnaques en ce moment, justement, qui veulent attraper ces nouveaux utilisateurs.
Ouais, bien sûr. Il y a tout un tas d'arnaques les plus traditionnelles, des faux conseillers, des faux mails, des spams, etc., des SMS. Je pense qu'il y a un autre aspect sur lequel il faut pas se précipiter, c'est que, pour certains, c'est ouvrir un compte sur ces exchanges-là, c'est aussi accéder aux cryptos, acheter, etc. Mais ils n'ont pas forcément manipulé ce qu'on appelle des dépôts, des retraits avec des adresses qui leur sont fournies par un partenaire à droite à gauche. Donc c'est pas anodin non plus comme transfert de se dire je vais prendre l'adresse d'une plateforme, la mettre sur une autre plateforme, retirer, pas faire d'erreur dans le copier-coller, etc. Donc il y a aussi des erreurs humaines. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter et bien regarder quand on fait.
On est à combien de plateformes là qui ont obtenu l'agrément et qui n'ont pas obtenu l'agrément en Europe?
On arrive finalement à ce qu'ambitionnait de faire MiCA d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est descendu de près de 3000 plateformes qui étaient régulées au niveau national dans les différents pays européens à aujourd'hui près de 200 plateformes qui sont régulées sous MiCA. Donc on voit qu'on a près de 75% de pertes. Il y a peut-être deux effets à juste capturer là-dessus. Il y a un effet qui est évidemment les règles de conformité qui sont beaucoup plus élevées et qui ont d'une certaine manière écrémé toute une partie de l'écosystème. Et le reste, c'est quand même aussi un des avantages malgré tout de MiCA, c'est d'appliquer la réglementation à un endroit. Donc il n'y a plus de notion de d'application nationale où il faut être régulé sur 2-3 pays différents et donc aller chercher à chaque fois une licence nationale, ce qui crée des formes de doublons de licence, puisque je devais avoir, si je voulais empérer par exemple comme Kraken en France, ensuite en Italie, ensuite aux Pays-Bas, il fallait à chaque fois que j'ai une licence différente, donc ça multipliait les licences. Mais donc on arrive ces chiffres-là.
Alors Thibaut, vous, Meria, vous l'avez obtenu, vous faites partie de ces 200 qui ont obtenu l'agrément MiCA, d'abord bravo. Est-ce que pour vous conformer, vous avez dû vous adapter, enfin comment rester compétitif, quand même, vous êtes un groupe commercial, compétitif et conforme à MiCA à la fois? Est-ce que parfois c'est contradictoire? Est-ce qu'il a fallu faire des sacrifices?
Non, clairement, ça change effectivement beaucoup de choses. Hein. On passe de la cour des petits, entre guillemets, à la cour des très grands, dans un espace de temps qui est très très court. Je crois que c'est William O'Rourke de Orwell qui le rappelait sur le plateau. Jamais c'était arrivé dans un environnement financier qu'on applique une régulation sur un temps aussi court, avec parfois des pure players qui partaient du coup de rien et qui devaient en quelques années se conformer à un cadre qui est extrêmement exigeant et extrêmement strict. Donc ça, forcément, ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte la compétitivité, ça impacte l'agilité. C'est d'un coup beaucoup plus de coûts, beaucoup plus de structuration, et donc forcément, alors quand on est un très très gros acteur, peut-être qu'on peut se permettre d'investir à différents endroits et de couvrir un petit peu toutes les lignes, mais quand on est un acteur un peu plus petit, forcément à un moment donné il faut être capable de faire des choix, il faut se spécialiser davantage. D'ailleurs, quand on regarde les 200 acteurs qui sont aujourd'hui agréés, en réalité ils couvrent tous pas tout à fait le même spectre et le même nombre de services, hein, donc on va pas retrouver les mêmes services chez ces 200 acteurs. Donc il faut regarder un petit peu aussi ces spécialités là, mais c'est certain que voilà, il y a des choses qu'on peut plus faire exactement de la même manière, et on tend aussi à une espèce d'harmonisation, étant donné que les contraintes sont les mêmes pour tout le monde. On va retrouver des offres qui vont plus ou moins se ressembler aussi chez les acteurs, donc ça implique de remettre un petit peu d'ingéniosité pour se différencier, pour être compétitif par rapport aux autres acteurs. Et ça, c'est pas toujours évident à faire concorder avec ce qui nous est imposé en termes de coûts réglementaires. Donc évidemment que l'innovation en prend un coup. Par contre, le différentiel de ça, c'est que pour les utilisateurs, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour se repérer.
Il y a juste une chose que je comprends pas complètement dans ce dossier, c'est que on n'aura plus Binance en France, mais Binance ne renonce pas à rester en Europe et d'ailleurs via la France. Thibault, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Binance en Europe, c'est pas complètement fini encore?
Non, c'est même ils l'ont même confirmé publiquement. Ouais, hein, leur volonté, c'est de se réguler en Europe. Alors là, ils ont un dossier qui était en cours en Grèce depuis un peu plus d'un an. Finalement, a priori, ça aboutira pas dans les conditions espérées en Grèce. Donc il y a une nouvelle instruction qui va repasser en France ou pas, on ne sait pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de dossier qui a été déposé en France. Donc oui, si c'est en France pour l'instant, c'est pas engagé. On sait également qu'ils en ont pour plusieurs mois d'instruction, donc faut pas s'attendre à voir Binance redéployer des services dans les prochains mois. Au mieux, je pense que ce sera sur la fin d'année, mais le plus raisonnable, c'est de penser sur un début d'année 2027. Mais d'ailleurs, ça se voit dans la communication qu'ils ont faite auprès de leurs utilisateurs. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment très précise, très détaillée, très rassurante et très complète. Ce qui est aussi un signe qui veulent jouer le jeu et qui veulent aussi montrer qu'ils jouent le jeu auprès des régulateurs, pour dire regardez, on joue le jeu, on fait une cessation d'activité dans les règles de l'art et on continue. Et on oublie aussi, on a tendance toujours à mettre un petit peu cette image du vilain petit canard à Binance. Binance, au niveau mondial, les ressources dédiées à la conformité, c'est près de 1500 personnes. Donc, c'est pas le groupe Far West qui pouvait exister à ses débuts. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus structuré, qui opère déjà dans différentes juridictions, qui sont régulées sur d'autres continents. On sait que leur cas en Europe, il est compliqué parce qu'il y a des antécédents aussi politiques. Donc, il y a tout ça qu'il va falloir un petit peu mettre sur la table. Mais je pense qu'ils trouveront une solution, mais ça prendra certainement un petit peu de temps.
Les pros des cryptos, l'essentiel de l'actualité en quoi ? 25 minutes chrono et à retrouver tout au long du week-end, bien sûr. On va parler aussi de l'euro numérique qui, alors, ne devrait pas voir le jour avant 2029, l'euro numérique, mais il vient quand même de franchir un pas important. Le Parlement européen a voté en faveur de l'euro numérique, Charles. On comprend l'intention, alors que les États-Unis exercent de plus en plus leur arbitraire sur le reste du monde. Le but, entre autres, c'est grâce à l'euro numérique, moins dépendre pour nos paiements de Visa ou encore Mastercard. Donc, oui, c'est bien l'euro numérique.
L'ambition est louable, en effet, oui, de se dire qu'on veut moins dépendre d'acteurs américains ou étrangers dans l'utilisation de nos services financiers, ça me semble tout à fait louable. Je pense que là où il y a des petites nuances à apporter, c'est par exemple si on regarde rien qu'en France, on a déjà le réseau carte bancaire, par exemple, qui permet de substituer à Visa ou Mastercard. Donc on a déjà des réseaux aussi au niveau national, par exemple, qui peuvent être beaucoup plus souverains que ces réseaux-là étrangers. Sur le reste du cas de l'euro numérique, en fait, ça pose beaucoup de questions. En réalité, si on regarde aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs ou de parties prenantes qui vont l'utiliser, qui vont le distribuer, qui sont forcément au clair sur est-ce qu'il y a un intérêt à le faire, combien ça va me coûter, comment je vais le mettre en œuvre, etc., etc. On commence à voir des choses, mais on voit beaucoup de coûts sur la table, assez peu de plus-value à date, et on se demande vraiment comment ça va être utilisé et comment les citoyens demain vont adopter ou pas en fait cet euro numérique-là, avec un risque finalement que la voie prise par les États-Unis que vous mentionniez juste avant, hein, qui est plutôt de dire je vais passer par des acteurs privés et notamment le monde des stablecoins plutôt que de passer via l'État. Et d'ailleurs c'est assez drôle, hein, mais il y a un croisement puisque je crois que c'est aux États-Unis on a formalisé l'interdiction de lancer une monnaie numérique de banque centrale de détail.
Oui.
Donc on allait pile au même moment à rebours de ce qu'on est en train de faire ici en Europe. Donc voilà, on verra qui sera gagnant dans les années qui viennent, mais on voit que même des réseaux Visa, Mastercard, c'est des réseaux privés finalement qui sont à la main des Américains, mais qui sont des réseaux privés.
Ah oui, oui. Mais par exemple, en Europe, on a Wero qui promet un peu ce que promet l'euro numérique d'ores et déjà. Un rail de paiement Thibault pan-européen, souverain, basé sur le virement instantané de compte à compte. Qu'est-ce que l'euro numérique doit apporter par rapport à Wero, par exemple?
Ça reste quand même deux choses différentes, Wero, ouais, et l'euro numérique, parce que Wero, c'est justement effectivement une infrastructure de paiement. Donc, ça reste sur le compte en banque et c'est simplement un moyen pour transférer de l'argent de compte à compte, là où l'euro numérique a plutôt vocation à être un genre de nouvelle monnaie avec un compte, avec une monnaie émise par la banque centrale. Donc, on est vraiment, d'un côté, on a une infrastructure et d'un côté, on a ce qui va plutôt circuler. Donc, on a presque, si je peux imaginer, Wero, c'est plus une autoroute, alors que l'euro numérique, c'est un nouveau type de véhicule. Donc, c'est deux choses qui sont différentes et qui répondent pas tout à fait à la même problématique.
Quelles seraient, Charles, les conséquences de cet euro numérique pour les banques commerciales?
Ça a été chiffré, hein, par différentes études, hein, que ce soit d'ailleurs par la BCE ou par des cabinets de conseil privé, mais c'est au moins quelques milliards de mises en œuvre pour les banques, voire quelques dizaines de milliards de mises en œuvre. C'est estimé par certaines études autour de 100 millions par banque pour mettre en œuvre toute l'infrastructure nécessaire. Donc ça, à la limite, c'est une question de coût et de mise en œuvre. Donc c'est une question de ressources, c'est-à-dire que c'est autant que je vais pas investir ailleurs pour un établissement bancaire. L'autre aspect qui peut-être est plus questionnable ou en tout cas pose des questions assez importantes auprès des banques, c'est le risque de substitution par rapport aux dépôts. C'est des choses qu'on entend souvent, par exemple des attaques souvent qu'on porte sur les stablecoins en disant en fait pourquoi développer les stablecoins puisque c'est une forme de substitut aux dépôts, et on se retrouve un peu dans la même logique en réalité avec le stablecoin, avec pour certaines banques, hein, ça peut monter jusqu'à 20-25% des encours qui seraient à risque selon les plafonds de détention qui sont autorisés ou pas. Je vois aussi, juste pour compléter ce que disait Thibault, une autre petite différence, c'est que c'est une monnaie ayant cours légal, en fait, l'euro numérique. Donc, les commerçants, n'importe qui, n'aura pas le choix d'adopter ou pas l'euro numérique. Ce sera obligatoire d'accepter et d'utiliser l'euro numérique chez soi, là où Wero, c'est pas une obligation.
Oui, alors justement, c'est cette autre question vers laquelle ce que vous nous dites nous amène. Est-ce que l'euro numérique servira aussi à pousser les Européens à dépenser plutôt qu'à épargner? Est-ce qu'il sera plus compliqué d'épargner avec une formule euro numérique, Thibault?
En tout cas, la forme qu'il prend par rapport aux informations dont on dispose, c'est qu'effectivement, il n'est pas fait du tout pour épargner. Déjà, parce qu'il y a de toute manière un plafond, a priori, qui sera autour de 3 000 euros. Donc, on ne pourra pas excéder ce plafond-là sur la détention. Et puis, on ne pourra pas avoir de rendement sur cet euro. Donc, finalement, en fait, il servira à rien d'autre que pouvoir faire des dépenses courantes. Et comme ça vient d'être dit par Charles, de toute manière, tout le monde sera obligé, enfin, en tout cas, tous les commerçants seront obligés de pouvoir l'accepter. Donc, il est pensé de manière à être un espèce de carburant qu'il faut utiliser. Sinon, on ne sait même pas ce qui va pouvoir en advenir. Potentiellement, demain, il y a ces craintes autour du crédit social. Cette crainte avec peut-être une durée de péremption sur ces euros. Tout ça sont en fait une programmabilité qui pourra être mise en place, mais en tout cas, la forme que ça prend, effectivement, ce sera plutôt quelque chose qui aura vocation à circuler dans des temps assez courts plutôt que d'être conservé sur du long terme. Et de toute manière, on pourra rien en tirer. Donc, avec l'inflation, globalement, garder son euro numérique n'aura aucun sens.
Et alors, l'une des principales craintes, notamment de l'écosystème crypto, mais pas que, hein, largement là aussi vis-à-vis de l'euro numérique, c'était qu'on perde un petit peu notre vie privée du fait de cet euro numérique. Les députés européens ont voté en faveur de l'euro numérique cette semaine, mais ils ont voulu ajouter une touche sur la confidentialité. Confidentialité renforcée par l'épreuve à divulgation nulle de connaissances. Ça risque de moins faire de cet euro numérique un outil de surveillance, vraiment, Charles ?
C'est louable et c'est très bien, c'est oui. Je pense une bonne technologie, il faudra voir si ça fonctionne à l'échelle. Et l'autre aspect, c'est je pense aussi de comprendre si tout est dans le détail derrière. C'est pas parce qu'on utilise une technologie, ça dépend comment c'est mis en œuvre, qui génère les preuves, comment c'est géré, etc. etc. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que dans le design de l'euro numérique, aujourd'hui, il y a un peu deux niveaux. Et l'idée, c'est que ce soit finalement des établissements privés, des établissements de paiement, des établissements bancaires qui fassent, eux, les diligences et donc les formes de, comme on dit, le KYC, les diligences sur les personnes pour s'assurer qu'elles ont le droit d'en détenir et qu'il n'y a pas de fraude associée et que ce soit pas la banque centrale elle-même qui le fasse. Donc, il y a un peu ce premier rempart, a priori, qui permettrait de protéger l'identité des détenteurs.
Dans quelques minutes, l'ouverture à Wall Street, on va la vivre ensemble sur BFM Business. Un dernier mot sur peut-être ce projet qui va faire son retour, enfin, sous une autre forme, revenir par la fenêtre ou par la cheminée. Là. Les stablecoins pourraient ressusciter le Libra, vous savez, cette monnaie que voulait lancer Meta, Facebook. Eh bien, ce Libra pourrait finalement retrouver une vie, retrouver un avenir, mais à travers Thibault, les stablecoins.
C'est ça, oui. Donc, c'est quand même sous une forme très différente, puisque là, l'idée, c'est plutôt justement d'intégrer des stablecoins existants dans l'environnement de Meta. Donc, ce serait plus Meta qui va venir créer sa propre monnaie, comme ça avait été l'initiative par le passé et comme ça avait soulevé toutes ces questions d'ordre politique. Donc là, ce sera une forme un petit peu différente, beaucoup plus acceptable politiquement en l'état, avec l'intégration de stablecoin pour justement faire des échanges à l'intérieur de cet environnement. Donc effectivement, ce projet est en train de se réveiller, comme il est en train d'être discuté dans beaucoup d'autres environnements.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Thibaut Boutroux pour Meria et Charles-Aubert Couturier pour KCIS. C'est votre épisode hebdomadaire des pros des cryptos. Dans un instant, BFM Bourse. Bon week-end à tous. Et sinon, dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.